aujourd'hui les gens n'ont pas envie d'aller travailler, je suis désolée de le dire.
Espèce de chômeur.
Hôtel, café, restaurant.
Je traverse la rue, je vous en trouve. Il y a simplement des gens qui sont prêts à travailler.
Espèce de chômeur.
Mes impôts n'ont pas à payer la médiocrité de ceux qui ne veulent rien faire.
Espèce de chômeur.
Alors c'est ça. Les chômeurs seraient des fainéants, des assistés, bien contents de ne rien faire. Dans Espèce de chômeurs, on met ces idées reçues à nu. On prend le temps d'écouter celles et ceux qui vivent le chômage, qui se battent et qui se relèvent. Des histoires de vie puissantes dans un podcast de solidarité nouvelle face au chômage. Comment fait-on pour garder confiance en soi dans un environnement qui nous dévalorise, nous immobilise et transforme chacun de nos efforts en échec? Ces situations d'épuisement, de harcèlement, voire même de placardisation, sont des souffrances souvent passées sous silence et mal prises en charge. Parmi les 4000 personnes accompagnées par Solidarité Nouvelle face au chômage, certaines ont vécu tout ça. Denis, que vous allez entendre aujourd'hui, a toujours voulu être utile aux gens dans le besoin, et c'est pour ça qu'il est devenu pompier. Mais cette volonté d'aider les plus faibles lui a valu d'être pris pour cible dans son travail. Dans ce premier épisode, il nous partage les rouages de la violence psychologique au travail et nous montre comment, pas après pas, on peut se reconstruire en restant fidèle à ses valeurs.
Je m'appelle Denis, je suis un ancien sapeur-pompier professionnel qui s'est reconverti et aujourd'hui je travaille dans le domaine du spectacle vivant, de l'événementiel culturel, dans une grande salle de spectacle parisienne. J'ai 50 ans, j'ai deux enfants. Donc j'ai grandi dans une ville où il y avait un grand festival, qui a toujours lieu d'ailleurs. J'ai travaillé pour ce festival, alors sur différentes années. Hein. Et puis, sorti des études, j'ai aussi fait mon service militaire en tant que pompier de Paris. Je ne savais absolument pas où je ferais mon service militaire. J'avais pas spécialement envie de me rouler en kaki dans la boue et jouer à la guerre, c'est pas mon état d'esprit. Et puis, on m'a conseillé d'aller faire le service militaire en tant que pompier de Paris, ce qui m'a bien surpris. À l'époque, j'étais gymnaste, donc c'était un atout. La gymnastique, c'est le sport originel des sapeurs-pompiers. Et j'ai été pris et j'ai passé 10 mois extraordinaires à découvrir un métier que j'ai adoré, parce que les pompiers, c'est quand même... Alors, il y a un côté sale gosse. Parce qu'on fait tout ce qui est interdit, c'est-à-dire que vous allez casser une vitre pour rentrer dans un appartement, vous allez marcher sur l'autoroute, vous allez découper les voitures, vous allez escalader des façades, enfin voilà. J'ai accroché à 200% et puis on est utile à la société, plus qu'utile. On s'entend forcément pas avec tout le monde, hein, mais y a une vraie solidarité parce qu'on sait que quand on est au front, quand on est les mains dans le sang ou quand on est sur la route, il faut veiller les uns sur les autres. On peut ne pas être d'accord avec le collègue, mais il faut lui faire confiance et s'appuyer sur lui. Donc j'ai adhéré et j'ai dit, ben voilà, sorti de là, je vais en faire mon métier. Et entre le moment où je suis sorti des pompiers de Paris et où j'ai eu mon concours, je suis devenu, dans le village où j'habitais, sapeur-pompier volontaire, pour continuer l'activité. Quand j'ai eu le concours, ça a correspondu à ce que j'attendais. Pendant quelques années, les trois premières années, quand j'étais en Charente, quand j'ai changé de département, ça ne correspondait plus du tout. Et ça explique en partie ma reconversion professionnelle. Quand j'ai changé de département, un jour on est parti sur un incendie et j'étais en binôme avec une femme sapeur-pompier volontaire. On a fait un super boulot. Pour un pompier, un feu, c'est quelque chose de professionnellement et techniquement intéressant. On avait vraiment ce qu'on appelle un gros flambard et on est resté plusieurs heures dessus. Et au retour, j'ai découvert que la fille sapeur-pompier volontaire a dit « Waouh, le nouveau, il m'a laissé la lance incendie !» parce qu'on a alterné, on a travaillé en équipe. Et là, je me suis fait attraper par un délégué syndical départemental qui m'a dit, en me regardant dans les yeux, « On ne laisse pas la lance incendie à un pompier volontaire, encore moins une femme. Donc, pardonnez ma grossièreté, mais je suis livré avec, c'est-à-dire que je l'ai regardé, je lui ai dit, écoute, soit tu me l'écris noir sur blanc, soit ce sera comme ça avec moi. Ce que je ne savais pas à ce moment-là, c'est que comme j'avais affaire à une personne qui avait un pouvoir politique, je venais de griller ma carrière. D'année en année, je me suis fait cibler. Alors c'est pas la seule chose qui a participé à ma reconversion, mais ça a commencé à contribuer à la détérioration de l'ambiance professionnelle. J'étais déjà, avant d'arriver dans ce département, formateur pour les jeunes sapeurs-pompiers, j'étais moniteur de secourisme, j'ai continué à m'investir, chose que j'ai toujours adorée, la formation, et j'ai lutté envers et contre ces états d'esprit discriminatoires. Les pompiers volontaires se faisaient taper dessus, entre guillemets, psychologiquement par les professionnels. Je passais énormément de temps, au contraire, à former les pompiers volontaires. Parce que personne ne s'occupait d'eux, personne ne leur faisait réviser quoi que ce soit. Je m'y retrouvais à 100%, sauf que je ne voyais pas à quel point je me faisais du mal. Enfin, je faisais du mal à ma carrière. Et sincèrement, avec du recul, je me dis, est-ce que je ferais la même chose si je devais le refaire aujourd'hui? Je suis un peu tête de bois, oui. Je ne renierai pas mes valeurs. Il y en a eu beaucoup comme ça, d'année en année, jusqu'à ce que d'autres raisons viennent aggraver ma motivation. Est arrivé ensuite d'autres événements dans ma vie privée où un membre de ma famille est décédé. On faisait un footing tous les deux. Je n'avais pas de téléphone portable. Je suis désolé si la voix chevrotte, mais forcément, ça brasse des mauvais souvenirs. Et donc, je me suis retrouvé pendant 40 minutes à faire massage cardiaque bouche à bouche sur un membre très proche de ma famille, sans pouvoir le secourir, parce que je savais, il y a des signes cliniques qui ne trompent pas, je savais que le cerveau n'était plus irrigué, je savais ces choses-là. Mais on ne peut pas s'arrêter et rester au bord de la route en mettant les bras sur la taille, en disant « bon, ben, il est mort ». Et donc, il a fallu que j'ai porté secours en vain. Difficile à accepter à la fin, quand on est soi-même moniteur national de secourisme, on enseigne aux autres comment secourir les gens, on n'est pas capable de secourir un membre de sa famille. De ce jour-là, j'ai réessayé d'enseigner le secourisme après. J'ai pas réussi. J'ai essayé, mais ça me brassait trop. Donc, au fur et à mesure, en fait, le lien entre l'opérationnel, où on met une distance, où on a des gestes mécaniques, et l'humain familial, le lien a commencé à se faire. Et là, au fur et à mesure des années, toutes les interventions difficiles humainement faisaient tomber cette barrière émotionnelle et l'empathie grandissait. Je ne veux pas faire des cauchemars, mais il y a un incendie où on a sorti un enfant qui, à l'époque, avait l'âge de ma fille. Un enfant qui était carbonisé. C'est horrible. Dur à vivre. Jusqu'au jour où j'étais chef de garde dans une caserne. Donc c'est celui qui coordonne la journée et les équipes. Il y a eu un problème sur une intervention où un de mes collègues était... Le 18 m'appelle en me disant « Denis, on t'envoie avec le fourgon incendie en renfort pour gérer le truc ». J'y suis allé, j'ai géré, c'était une intervention très dure. Quand on est revenu à la caserne, j'ai vu mon collègue et pote, qui fait partie des rares pompiers restants pour moi, je lui ai demandé comment ça allait, j'ai pris de ses nouvelles parce qu'il s'était fait secouer. Il m'a dit « Super, merci de ton intervention, t'as géré, etc. » Et là, je me suis effondré. Et là, j'ai dit « Stop, faut que j'arrête ». Ce lien, cette ambiance, déjà pas géniale, qui était un peu discriminatoire, qui m'a mis un peu de côté, plus ce lien fait par les interventions qui ont fait tomber progressivement cette barrière émotionnelle, ont commencé à me faire poser la question, pourquoi tu partirais pas dans les bureaux, l'administration, j'avais le premier diplôme de préventionniste, j'étais passé formateur incendie sur feu réel à taille réelle, sujet qui me passionnait, et... Tout ça, je pouvais me reconvertir dans ce domaine-là en interne. À cela s'est ajouté, parce que ce serait trop facile s'il n'y avait que ça, l'ambiance et les mauvais traitements au sein même de la caserne où j'étais, par ma hiérarchie et par force par mes collègues. Je vais prendre cet exemple, c'est qu'au début, le chef de centre qu'on avait me mettait sur le dos des erreurs qui n'étaient pas les miennes. On en rigolait, avec toute l'équipe. Un jour, la caserne voisine, il y en a un qui accroche son véhicule, et puis les mecs ils me disent « Bah Denis, tu vas voir, ça va être de ta faute. » J'en rigolais. Je n'étais pas sur place, enfin voilà, c'était absurde comme remarque, mais on en rigolait toutes et tous. Sauf qu'au fur et à mesure, cette rigolade est devenue vérité pour eux. Et s'il y avait un problème technique dans la caserne, que je solutionnais, j'avais tort, ce n'était pas à moi de le faire. Si je donnais l'information à la personne censée le faire, j'avais tort parce que je ne l'avais pas solutionné. Donc que je fasse ou que je ne fasse pas, j'avais tort. C'était un cauchemar. Et puis ça s'est prolongé avec le chef de centre suivant. Quand j'avais le droit à passer au grade supérieur, j'étais évalué selon ce que j'avais fait dans ma carrière. Tout ça, ça me donnait des points et j'étais parmi les premiers de la liste. Sauf que là, mon chef de centre a mis en évaluation connaissance incendie, on parle des connaissances, médiocre. Et là, je lui ai fait la remarque, je lui ai dit, mais attends, connaissance incendie médiocre, l'école nationale des officiers de sapeurs-pompiers vient se faire former, je fais partie des trois référents du département pour former les officiers de la France entière, et tu mets que mes connaissances incendie sont médiocres. Et sa réponse a été, oui, mais c'est pas le sujet. Et j'ai compris bien plus tard que le sujet, c'était que je n'obtienne pas mon grade supplémentaire. Parce que je défendais toujours les pompiers volontaires, parce que je défendais les femmes sapeurs-pompiers, qu'elles soient professionnelles ou volontaires, parce que je défendais ce qui était discriminé dans la profession. Et du coup, j'ai été, à ce sujet, discriminé et maltraité. Ça, je m'en suis rendu compte bien plus tard. Parce que quand on est dedans, on est, comme j'aime à dire, quand on est dans un bain d'huile, on baigne et on prend le goût et l'odeur de l'huile. À un moment donné, il faut sortir, il faut s'essorer et regarder ce qui se passe ailleurs. Et là, j'étais dedans et c'était somme toute normal, quoi. Et progressivement, j'ai été mis de côté. Et donc là, je me suis dit, bon, il faut que... Là, je pensais plus du tout à passer dans l'administration. Là, je pensais à quitter la profession. Et comme je ne pouvais plus intervenir sans me faire du mal, pour le secours à personne, entre autres, j'ai demandé à une reconversion... D'abord côté administratif, le temps ensuite de me reconvertir. Et la reconversion administrative m'a été refusée en me disant « un pompier c'est dans les camions ». Mot pour mot. J'ai eu un... Alors je sais pas si on appelle ça un burn-out, une dépression, un bar-out. Où là du coup j'ai été arrêté plusieurs mois. Et à l'issue de cet arrêt, alors on m'a envoyé voir une psychologue du travail extérieure. Et cette psychologue du travail, au bout d'une heure d'entretien, m'a dit « mais monsieur... vous êtes soumis à maltraitance depuis 10 ans. » Quand on nous le dit, on se dit « c'est bizarre. Je voyais des collègues moins bien traités que moi. Donc non, pourquoi moi je serais soumis à maltraitance ?» On le refuse d'être soumis à maltraitance ou d'être discriminé ou quoi que ce soit. On ne l'accepte pas ou on s'en rend pas compte. Et même quand on nous le dit, alors ça fait du bien de l'entendre, mais on n'en est pas convaincu. C'est pas évident. Donc voilà, et après ce long arrêt de travail, ils m'ont proposé un poste dans les bureaux. Alors là encore, une façon de faire abominable. On m'a reçu en me disant « ben où est-ce que tu te verrais aller ?» Ce à quoi j'ai donné les exemples de la prévention, de la formation. Et là, on m'a proposé une troisième solution, qui n'était pas dans mes vœux, et parce que c'était le seul poste qu'ils avaient. Et je leur ai dit « mais pourquoi vous me dites pas si tu veux venir dans les bureaux ? On a un poste là, directement. » Parce que là, vous êtes en train de me faire espérer d'aller quelque part, alors que... Mais non, c'est la façon de faire est odieuse. Et donc, j'ai pris ce poste dans les bureaux, et là, clairement, je me suis rendu compte que j'étais au placard. Parce que j'arrivais le matin, j'avais entre 10 minutes et un quart d'heure de travail, et tout le reste de la journée, je n'avais rien. Mais rien. On est inutile, on sert à rien, on est isolé. À cette époque-là, j'étais déjà épuisé moralement. Je n'avais plus beaucoup de courage, le côté familial s'était totalement dégradé et je n'avais plus rien qui me tenait réellement. Plus d'environnement professionnel, plus d'environnement familial, il n'y a plus rien. Et ils ont eu la délicatesse, ironiquement bien entendu, de me baisser le salaire de presque 25% en toute légalité, en baissant mon niveau hiérarchique. Et je me suis retrouvé découvert pendant des mois où, sur les conseils d'un copain, il m'a dit « mais va voir les services sociaux » et j'ai bénéficié des Restaurants du Cœur pendant 3 ans et demi, 4 ans. Et ça, j'ai du caractère, j'ai un côté guerrier de pompier, on va dire, mais où je tenais et j'en ai bénéficié. Là où j'ai été très touché, c'est quand j'ai dû aller chercher le colis alimentaire un samedi, alors que j'avais mon fils en garde. Et aller chercher un colis alimentaire avec son enfant au bout de la main, c'est horrible. Quand on est autonome, quand on subvient à ses besoins, aux besoins de ses enfants, et que du jour au lendemain, on ne peut plus les nourrir, c'est particulièrement douloureux. C'est une période où, dans la vie, il ne me restait que mes enfants. C'est-à-dire que, clairement, il n'y aurait pas eu mes enfants, je ne serais plus là pour en parler. Parce qu'il n'y avait rien. Et comme je n'avais rien à faire, parce que j'étais au placard, eh ben j'ai fait beaucoup de formations en ligne pour travailler une reconversion qui m'était refusée parce que j'ai demandé à faire des formations via le centre de formation de la fonction publique, pour lesquels ils payent toute l'année, c'est-à-dire que ça leur coûte rien de plus. C'était refusé systématiquement. Donc, à partir du moment où la hiérarchie refuse tout, vous met dans un placard, continue à refuser par exemple l'avancée hiérarchique en grade, qui m'aurait permis de revenir financièrement un petit peu à niveau, ben, y a rien, y a pas de soutien, y a... le soutien moral de la famille était légèrement là quand même, pour dire oh ben, ça doit pas être facile, tiens le coup, mais c'est pas un soutien encourageant, c'est un soutien compréhensif. C'est différent. Jusqu'au jour où ça a été accepté. J'ai eu le droit de faire une VAE. La VAE, c'est la valorisation des acquis et de l'expérience. Et là, bonne blague, la VAE a été interrompue par ma hiérarchie avant que j'arrive au bout. Et je n'ai pas eu le droit de finir ma VAE. J'ai utilisé mon compte personnel de formation. Et je n'ai pas eu le droit d'aller au bout de la VAE. C'était hallucinant. Et quand on est épuisé comme je l'étais, on n'a pas la force de faire appel à un tribunal ou juridique ou quoi que ce soit, parce qu'on est déjà au fond du trou. Donc, on est manipulé de bout en bout, tout simplement. Et c'est au bout d'épuisement que j'ai fait appel à SNC, Solidarité Nouvelle Face au Chômage. Mon voisin à l'époque, Géraud, auquel je pense très affectueusement, qui est un ancien membre d'SNC, il m'a dit « Denis, tu devrais essayer SNC ». Et ok, d'accord, bon, j'ai écouté, mais sans plus. C'est... Malgré tout, une perche, c'est une perche. Je l'ai prise, j'ai appelé, et les gars, en l'occurrence Philippe et Xavier, que je salue, qui m'ont... qui ne m'ont pas lâché, qui ont compris ma situation et qui m'ont aidé de bout en bout avec une pédagogie, une force extraordinaire, étape par étape, step by step. Parce que quand on est épuisé comme ça, on a envie d'en sortir tout de suite. Et ils l'ont fait, mais bien comme il faut, pour juste retravailler un CV, retravailler les compétences, prendre conscience de ses compétences, reprendre un peu confiance en soi. Vraiment, alors je ne peux pas décrire toutes les étapes tellement elles étaient nombreuses, mais ils m'ont élevé. Enfin, j'étais au fond du gouffre, ils m'ont tendu une échelle de 10 km de long et ils m'ont dit « vas-y, manque 5 barreaux supplémentaires ». Et au fur et à mesure, ils ont sorti du trou, clairement, en m'accompagnant, autant, je vais pas préciser, mais à partir du moment où j'étais dans les bureaux et au placard, je postulais en boucle sur plein de postes qui me convenaient pas forcément, ou pour lesquels je n'apparaissais pas convenir, parce que pas le diplôme, parce que pas l'expérience sur le papier. Et eux, ils ont fait le nécessaire pour m'aider, m'orienter dans le choix de reconversion, pour cibler mes attentes, pour savoir ce que je voulais, pour reprendre confiance en moi, toutes ces choses-là. Et ils m'ont aidé à avancer, vraiment, mais d'une façon indescriptible. Et par chance aussi, j'ai changé de chef dans les bureaux. Et là, je suis tombé sur un chef, un pompier, un humain. Et progressivement, il m'a dit, tiens, tu vas faire ça. Et puis après, tiens, tu vas faire ça. Et au fur et à mesure, il m'a donné des missions, de la responsabilisation. Et je me suis réinvesti dedans à 200%. Et en fait, le fait que Philippe et Xavier, déjà, m'accompagnent, que arrive ce nouveau chef, Loïc, qui me fasse aussi professionnellement du bien, je deviens utile. Tout d'un coup, j'ai des compétences. Que Philippe et Xavier me mettent en évidence, mais finalement, oui, c'est le cas. Je revis, je respire. Ça fait du bien. Et puis, l'avantage de la fonction publique, c'est que tous les 3 ans, il y a des grilles indiciaires, donc le salaire avance, et au bout de 4 ans, j'ai pu, ne pu, plus bénéficier des Restos du Cœur. Mais quand je suis retourné faire les courses, je visitais le supermarché, j'étais dans un parc de loisirs. C'était hallucinant. Sans faire de dépenses absurdes, évidemment, mais j'étais le plus heureux, quoi. Ça y est, je peux enfin à nouveau être autonome. Et tout s'est additionné l'un à l'autre jusqu'à ce que ce poste arrive. Autant j'ai fait des centaines de candidatures avant qui étaient un peu dans le vide, autant là, j'ai dû faire 2 candidatures. À la deuxième, c'était bon. Parce qu'ils m'ont aidé à cibler, parce qu'ils m'ont aidé à reprendre confiance en moi, parce que tout ça. Donc tout ça s'enchaîne dans le bon sens à ce moment-là. Et voilà, c'est jamais qu'une histoire de personne, d'humain et de bienveillance, avec un B majuscule. Quand je parle de l'humain, c'est parce qu'il y a des gens en face de moi qui vous renvoient le fait que si vous avez de la valeur, si vous avez des compétences, oui, vous avez un savoir-faire, oui, il faut garder une certaine motivation, même si c'est très difficile. C'était... j'avais quelqu'un qui prenait soin de moi, j'avais besoin de soutien en fait. J'avais besoin de soutien et de compréhension. Et quand on est comme ça, qu'on est traité comme une personne inutile et qui ne sert à rien, qui n'a aucune compétence, on finit par le croire. Donc on se défend en devenant, je parle pour moi évidemment, mais mon caractère, ça a été de me défendre et de tenir tête et de devenir frontal, c'est-à-dire que on devient bête, hein. Pour ne pas utiliser d'autres mots, on devient bête pour tenir. Là, j'ai eu en face des moi des personnes avec qui je pouvais échanger, avec qui me mettaient en avant mes erreurs, mais aussi mes qualités. Clairement, ils ont... je vais prendre une métaphore de feu, c'est assez original pour un ancien pompier, mais... Le brasier, il n'y avait plus que quelques braises rouges qui brûlaient. Ils ont soufflé dessus, ils ont fait renaître le feu d'une manière extraordinaire. Et merci les gars. Il faut avancer, il faut se mettre en mouvement et pas seul. Pas seul. Le mouvement, moi, il a été soutenu et coordonné et guidé des barrières de sécurité par Philippe et Xavier, puis après Denis qui a remplacé Philippe. C'était à un moment donné, quand on ne sait pas faire les choses, il faut demander aux gens qui savent, quoi. Tout le monde sait qu'on ne sait pas tout. mais parfois on est convaincu de vouloir réussir les choses seul, ou par soi-même parce que ça nous concerne nous, on est dans une détresse telle qu'on n'a pas envie non plus de crier cette détresse sur les toits. Et donc, faire appel, c'est un aveu de faiblesse. Alors que non, il faut du courage, mais il faut faire appel. C'est ça le truc. Voilà, j'ai le plaisir de travailler dans une grande salle de spectacle parisienne. Et aujourd'hui, effectivement, j'ai été recruté dans cette salle qui est extraordinaire. On a des concerts de tout style, des spectacles, de tout. Et j'ai retrouvé un vrai état d'esprit de travail humain avec un H majuscule, même toutes les lettres majuscules, parce que une vraie ambiance de travail saine, ça fait du bien. Donc ce changement professionnel me fait énormément de bien, mais je sais que j'ai encore à lutter contre mes vieux démons, et je suis très bien entouré pour ça, donc il n'y a pas de raison que j'y arrive pas.
C'était Espèce de chômeur. Merci pour votre écoute. Si cet épisode vous a plu, on vous invite à écouter les autres et à les faire découvrir autour de vous. Et pour en savoir plus sur l'association Solidarité Nouvelle face au chômage, rendez-vous sur snc.asso.fr.